Mais Nîmes, c'est une ville de football.
Je n'ai pas dit que Nîmes n'était pas une ville de football.
Et les Nîmois, cette ouverture du score dès la 9e minute de jeu.
L'équipe de Nîmes Olympique.
Alors cette victoire, Nîmes confirme ainsi ses prétentions du début de saison.
C'est un fief du foot. Cette tribune que vous voyez toute rouge, c'est assez rare dans le foot français.
Il y a un amour modéré pour ce club.
Cet après-midi, encore une fois, le public a répondu présent, donc c'est magnifique pour nous joueurs, c'est super.
Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique sur Rage.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc sur l'antenne de Rage pour cette 31e émission, le 11 de Nîmes en direct et en live. Vous nous écoutez peut-être sur le rage.fr et vous nous écoutez sûrement sur le 102.5 du côté de Nîmes et sur le 90.3 du côté d'Avignon. On n'oublie pas que le 11 de Nîmes c'est aussi une page Facebook et une page Twitter aussi où vous pouvez retrouver l'actu fraîche sur le Nîmes Olympique et plus encore, j'ai envie de dire. Allez, petit tour de table tout de suite, je vous présente mes collègues du jour, mes chroniqueurs du jour, Benjamin qui est de retour. Donc comment ça va, Benjamin?
Je suis toujours là, t'inquiète pas.
Il y a quelques semaines où on a des empêchements, c'est normal. Non, ça,
toujours présent, mon ami. Très heureux de te retrouver.
moi aussi. Baptiste aussi, fidèle au rendez-vous. Troisième émission pour toi, comment ça va?
Ça va très bien.
Ouais, très bien.
Ouais, c'est la feria.
C'est la feria, oui. Ça n'a pas encore commencé quand même. Faut pas. Geoffrey, donc petit nouveau dans l'émission, grand fan du Nîmes Olympique, qui est un peu notre sentinelle sur Paris avec Merlin, j'ai envie de dire. Comment ça va, mon cher Geoffrey?
Ça va très bien, merci. Et merci pour l'invitation, Yann.
Écoute, voilà. Avec grand plaisir, tu reviendras quand tu veux. Ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous. Et bien sûr, notre invité du jour, on a toi, Filou Maoulida, avec nous. Comment ça va, toi, Filou?
Sans rien vous cacher, ça peut aller mieux. Parce que voilà, je suis en deuil. J'ai malheureusement perdu mon frère. Mais j'avais promis d'être là, de faire l'une de vos émissions. Et voilà, chose promise, chose due. Et je vais faire le maximum pour être au mieux lors de cette émission.
Toutes mes condoléances. En tout cas, on t'envoie beaucoup de force et on te remercie d'être là malgré cet événement tragique. Ça nous fait plaisir, en tout cas, vraiment de t'avoir avec nous. Ça faisait vraiment un bon moment qu'on parlait de toi, Filou Maoulida, dans l'émission. Ça y est, c'est chose faite. Sans tarder, sommaire de l'émission. C'est parti. Au programme, cette semaine, votre tour de la crocosphère, vous l'attendiez, il est là forcément, toute l'actualité autour du Nîmes Olympique, les infos, Mercato et bien sûr, je vous le disais, à notre invité, toi Filou Maoulida, aujourd'hui invité d'exception, ancien joueur du Nîmes Olympique, on abordera tous les sujets actuels du Nîmes Olympique, passé et futur, avec lui bien sûr. Vous savez quoi, on va pas perdre de temps pour une deuxième fois et on va tout de suite faire le tour de la crocosphère, c'est parti.
Le 11 de Nîmes. Le tour de la crocosphère.
Allez, je me tourne vers toi, Benjamin, et tout de suite, on a quelques dates donc sur pour la reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2, donc qui sont enfin connues. Ça y est.
Oui, alors on sait la date de sortie du calendrier, donc ce sera le 14 juin, et à noter que le Nîmes Olympique a demandé à jouer son premier match à l'extérieur. On sait également les 40 clubs de D1 et de Ligue 1 et de Ligue 2 pour l'année prochaine, donc c'est Le Mans qui va retrouver la Ligue 2, et c'est Dijon qui va rester en Ligue 1 la saison prochaine, puisqu'ils ont battu Lens au match retour des barrages, et on retrouvera donc Dijon l'année prochaine et son stade Gaston Gérard et sa tribune céréale. Je fais une petite dédicace à Bill. l'année prochaine et non pas le stade Bollard.
D'accord, très bien. On enchaîne avec un autre sujet, toujours sorti du calendrier ou pas, c'est ça? Non, tu viens d'en parler, bien sûr, du calendrier, 14 juin.
C'est ça.
Non, sorti du calendrier le 14 juin, à noter que le club a demandé de jouer le premier match à l'extérieur. C'est ce que tu viens de dire, autant pour moi, mon cher Benjamin. Alors, quelques petits soucis maintenant concernant les abonnements qui étaient présents, notamment le paiement en plusieurs fois, qui ne marche pas trop bien. Donc voilà, ça risque d'être rétabli dans les prochains jours. En tout cas, on l'espère, je pense que le club est là-dessus. Hein. Ouais, Baptiste.
Ouais, ça vient d'être réglé là, hier ou avant-hier, je sais plus. Donc, vous pouvez vous réabonner, c'est bon.
Ça y est, et payer en trois fois. Surtout, voilà. C'est important, ça.
Le gros problème, c'était qu'en fait, normalement, le club proposait une option de payer en deux ou trois fois, et des gens se sont retrouvés à payer la somme d'un seul coup, en fait. Et ça a bien sûr fait jaser forcément, ce qui est normal. Et voilà, le problème va être réglé dans les prochains jours.
Alors maintenant, on va parler des joueurs du NO et on va parler de pompiers aussi, du côté de Sommières. Vas-y Baptiste, je t'en prie, donc les joueurs du NO qui étaient à la caserne de Sommières la semaine passée. Hein.
Oui, voilà. Donc il y avait six joueurs qui étaient présents. Donc Gaëtan Paquies, Clément Després, Antonin Bobichon et Antonin Briançon étaient au Vals, ainsi que Baptiste Valette. Ils ont posé notamment avec les banderoles pour lutter contre les agressions faites aux hommes du feu, mais aussi avec la banderole soutien à Lucas et retrouvons Lucas. Pour l'association qui porte le nom du jeune homme qui est disparu maintenant il y a 4 ans à Bagnols-sur-Cèze. Voilà.
C'est vrai que ça commence à faire un petit moment et ces problèmes de caillassage de pompiers notamment aussi, ça c'est vraiment d'actualité du côté de Nîmes. Transition toute trouvée tout de suite, on va parler de nos crocodiles qui profitent de leurs vacances. Mais vas-y, je t'en prie mon cher Geoffrey. Parmi eux, on peut citer notamment Anthony Briançon hein, qui est en vacances, Geoffrey.
Anthony Briançon, oui. Qui a opté pour l'aventure américaine à Miami.
Olé.
Voilà. On a aussi le duo Bobichon et Valls, qui a lui misé sur San Francisco.
Pas mal aussi.
Denis Bouanga, qui lui a misé sur la Grèce. Et on a Renaud Ripard, qui était récemment à Madrid pour vivre sa passion. On la connaît.
La
tauromachie. Oui. Exactement.
Et Fetou Mawassa aussi, hein, qui me semble joue lui aussi la carte espagnole avec un congé sur les îles Canaries du côté de Tenerife. Hein, ce dernier n'ayant pas été sélectionné avec les Bleuets pour l'Euro, il peut profiter pleinement de ses vacances. Oui, Benjamin, je te vois sourire.
C'est moi qui ai écrit cette petite brève, donc je suis fier.
Tu écris très bien, mon cher. Tu écris très bien. Du coup, on va s'intéresser à notre petit chouchou de cette saison aussi, Paul Bernardoni. Vas-y, je t'en prie, Benjamin.
Et oui, puisque lui, de son côté, pas de repos hein, pour Polo, pour Bernie, qui prépare donc l'Euro des moins de 21 ans avec l'équipe de France Espoir. Et ça a plutôt pas mal commencé, puisque les Bleuets ont entamé leur campagne de matchs amicaux de la meilleure des manières, puisqu'ils se sont imposés 3-0 face à la Belgique lundi, je crois que c'était au MM Arena du Mans. Match durant lequel Polo était titulaire, pas de but encaissé, c'est une bonne chose pour lui. Début de l'Euro U21, donc U21, under 21, moins de 21 ans, le mardi 18 juin, face à l'Angleterre.
D'accord, très bien. On va parler tout de suite maintenant du stade. Hein. On en parle très souvent, cette fois, du stade des Costières. Vas-y, Baptiste, c'est à toi.
Oui, voilà. Il y a Midi Libre qui nous annonce il y a quelques jours que ça coince avec la mairie, que la vente n'a pas été effective pour le moment avec Reine Assaf, la mairie qui trouve le projet du président Assaf trop faible au niveau de sa capacité.
Ils veulent 15 000, c'est ça, je crois.
Ouais. Ouais. Ils veulent au minimum 15 000 places. Et au niveau du prix, du coup, de la vente aussi. Donc, on va voir ce que ça donne dans les prochains jours. À noter que Midim nous annonce aussi aujourd'hui que les grilles des pesages vont être retirées. Et la mise en place d'un garde-corps effectuée, à part pour le parquage de visiteurs.
D'accord. Au bord du stade, tu veux dire ?
Ouais, à la place des grilles, normalement, d'accord. C'est ce qui devrait être effectif.
D'accord, mais je me tourne vers toi maintenant, toi Philou Maoulida, donc notre invité du jour, hein, si vous nous rejoignez donc dans le 11 de Nîmes, l'émission. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire de stade ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée pour Nîmes d'avoir un nouvel outil, un nouveau stade ?
Et concernant la modernisation, le développement du club, et surtout pour la pérennisation du club en Ligue 1, on se doit aussi d'avoir un outil moderne, d'avoir un stade moderne. Je pense que là, la première étape du projet, c'était de maintenir le club en Ligue 1. Et ensuite, on le voit dans tous les autres clubs de Ligue 1, ils ont tous des nouveaux stades, des stades modernes où y a un cadre de vie, où les gens peuvent manger au restaurant, où il y a beaucoup de choses à faire. Donc je pense que c'est très intéressant pour le Nîmes Olympique, pour développer le club et qu'on puisse, j'espère, le pérenniser en Ligue 1.
Justement, pour rebondir un peu sur ça, toi qui es maintenant à la formation du club, est-ce que tu en as déjà parlé avec le coach Blacard ou le président Assaf sur l'évolution, là, non pas du stade, mais de la Bastide, du lieu de vie du centre de formation à la Bastide? Est-ce qu'il y a des améliorations pour toi encore à faire?
Non, j'ai assisté à quelques réunions et je pense que c'est vrai que dans les projets du club de les développer, et ça va passer aussi par le développement du centre d'entraînement. Parce qu'on sait aussi que par rapport à la mise en norme de la Bastide, qui est inondable, donc c'est pas évident pour les jeunes du centre de formation et pour les pros, terrains, les pros, parce que quand il pleut, on sait très bien que c'est impraticable. Les pros ne peuvent plus s'entraîner de plusieurs jours, voire semaines. Donc je pense que voilà, c'est dans les projets et tout ce qu'a déjà apporté M. Assaf au club. Et je pense que M. Assaf a envie de développer le club encore plus loin. On le voit déjà avec le nouveau stade. Et après, par la suite, je pense que ça va passer aussi par le centre d'entraînement. C'est très important pour le club, enfin, que voilà, de le développer du mieux possible.
Alors on s'intéresse tout de suite au mercato, et c'est à noter hein, quand même, puisque cette semaine c'est assez calme hein, sur la planète NO, on n'a pas eu trop d'actu mercato. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas selon vous les gars, Benjamin ?
Moi ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal, je sais que c'est un peu schizo de dire ça, parce qu'on aime beaucoup avoir des noms et tout, mais en fait je pense que quand t'as pas d'infos, c'est que le club travaille, rien ne fuite, et que c'est au contraire une très bonne chose. Et de mon avis perso, je pense que d'ici une semaine ou deux, on va avoir un ou deux noms qui vont sortir... assez rapidement, mais de manière officielle ce coup-ci.
Ben on peut s'intéresser peut-être au cas Pablo Martinez, mon cher Benjamin. Vas-y, je te laisse la main encore.
Ouais, je prends encore la main sur le cas Pablo Martinez. Ouais, c'est un défenseur donc qui joue à Strasbourg, qui a 30 ans. Il est formé au Nîmes Olympique. Hein, il a pas mal bourlingué et puis il a joué à UZES notamment. On en avait parlé avec Samuel Cruz qu'on avait reçu ici.
Ah oui, c'est vrai.
Son ancien entraîneur. Donc c'est vrai qu'il revient souvent parmi les noms cités et il n'arrive pas à avoir un accord avec Strasbourg au niveau du salaire, ça coince. Et les dernières nouvelles d'Alsace, donc c'est un journal, hein, nous précise que Nîmes serait bien chaud sur son cas et son nom était revenu notamment l'année dernière quand on montait en Ligue 1. Il faisait partie des noms cités. Donc pourquoi pas Pablo Martinez derrière quand on sait que Fetcharek et Hervé Liboy ne seront pas prolongés.
Il y a d'autres pistes, hein, notamment celle de Romain Del Castillo, mon cher Geoffrey.
Oui, je voulais d'abord parler en défense aussi, Benoît Poulin.
On en a parlé pas mal dans l'émission, mais ça, voilà, il est en fin de contrat, il semblerait, donc on va voir si...
Il est libre, oui, il a été laissé libre par Bruges. Ouais.
Le gros problème de Benoît, je pense que c'est un garçon qui a pas mal de... il est pas mal convoité. En janvier, il devait signer à Fulham avec un gros, gros contrat, donc je pense que ça va être compliqué pour nous. Le garçon, il a 32 ans, c'est une idole ici, évidemment, on voudrait tous l'avoir ici.
Et il connaît bien le club, c'est peut-être ça aussi qui peut pencher dans la balance.
Après, cette année, même s'il a fait... Oui, il a fait une belle saison avec Bruges. Il est de plus en plus blessé. Je ne sais pas si le club prendra le risque. À suivre, je pense que c'est une piste qui peut être intéressante. Mais à suivre.
Juste un retour, toi, Philo, sur le cas Benoît Poulin.
Ouais, parce que j'étais avec lui lors du dernier match contre Lyon, au Cossier. On l'a regardé ensemble, donc on a un peu discuté. Et c'est vrai que. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais revenir à Nîmes serait. Ça ne le laisse pas indifférent. Donc, quand on voit la passion, et souvent, la passion prend le pas sur la raison. Et c'est vrai qu'il ne m'a pas caché qu'il avait plusieurs offres, des clubs intéressants. Mais quand on voit la ferveur qu'il y a au Cossière, quand on voit tout cet engouement et le plaisir qu'ils prennent les joueurs, je pense que ça ne le laisse pas indifférent. Donc, et ça serait très intéressant pour le Nîmes Olympique, parce que c'est un joueur d'expérience qui a joué le haut niveau avec Bruges en Belgique, le haut de classement. Donc, ça serait pas mal. Mais comme on dit... Laissons travailler M. Boissier, le coach et le reste. Ils font très bien leur travail, donc pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme on dit.
Ouais, carrément. Geoffrey ?
Je pense qu'une défense centrale, Benoît Poulin, Anthony Briançon, plairait à beaucoup de supporters nîmois.
Ah, c'est sûr, ça fait rêver tout le monde.
Ça fait rêver, et puis ça ramènerait un peu d'expérience aussi dans ce vestiaire, puisqu'on perd quand même pas mal de joueurs expérimentés, comme des Ferry, des choses comme ça. Là, c'est un monsieur qui a plus de 30 ans, qui connaît...
Qui connaît bien le haut niveau.
Ouais. Donc voilà, affaire à suivre. Je sens que ce mercato va être fait d'épisodes très très chauds et que
C'est bien, ça fait un mois que ça part déjà dans tous les sens et le mercato n'a toujours pas commencé. Donc imagine que ça va être pendant deux mois là. Mmh.
Alors il y a aussi bien sûr la piste Romain Del Castillo hein, qui a été un peu démenti avec cet échange Ripard Del Castillo qui serait dans les papiers. Il semblerait que c'est faux.
Grosse bêtise. Ça.
Donc c'est démenti par Benjamin. Donc Et Irvin Cardona qui semble être toujours étudié actuellement, on étudie encore son cas. Et on peut parler aussi des jeunes, ben, je t'en prie.
Puisque après Kélian Guessoum, Théo Saint-Luce et Lucas Dias que Tofilo a connu un petit peu avec les U17 il me semble il y a quelques années. Je crois
la formation, ouais.
Ouais. C'est la signature d'un contrat pour d'un an de Lucas Boades, donc qui est originaire de la région toulousaine, c'est un 97. Et il a un peu le profil de la Renaud Ripard, c'est un garçon assez polyvalent, un peu le couteau suisse de la réserve, puisque normalement c'était un attaquant de formation et qu'il a été replacé cette année latéral droit. Il a un gros coffre, il me semble, c'est ça hein,
Exactement, c'est un joueur qui peut jouer, on va dire, à tous les postes comme Renaud. Et voilà, c'est qu'il a la particularité d'être polyvalent. Il peut jouer sur tout le côté droit, que ce soit milieu droit, attaquant droit, défenseur droit.
Très puissant. Ouais.
Et très puissant, qui va vite, et il a une belle marge de progression. Donc j'en profite pour féliciter la formation, parce qu'on a quand même 5 joueurs qui ont signé professionnels. Donc comme quoi la formation porte ses fruits et on est récompensé de notre travail. Donc ça fait énormément plaisir. Et félicitations à Lucas et aux autres qui sont désignés professionnels. C'est mérité.
Et je pense que c'est aussi pour pallier le fait que Ripard a joué beaucoup arrière-droit cette saison, alors qu'on aurait pu peut-être plus le faire jouer devant. Quand on voit sa fin de saison, on se dit que ça aurait été bien de le faire jouer plus souvent devant. C'est peut-être aussi pour combler ce manque avec les possibles blessures dans la couche qui sont quand même assez fréquentes. Ouais, Benjamin.
De ce que je sais, moi, le coach Blacard l'apprécie beaucoup et le verrait bien à terme comme latéral droit avec les pros. Alors après, ici, qu'un an, on va voir. Mais c'est vrai que Sofiane Alacouche fait partie des noms, je pense, qui peuvent partir cet été parce qu'il a une grosse marge, il est jeune, à un poste qui n'est pas le plus important comme des joueurs comme TJ Savanier, il faut être honnête, hein, on l'apprécie beaucoup, mais Renault a fait vraiment une belle saison à ce poste de latéral droit et je pense que c'est clairement une piste crédible d'avoir Renault au poste de latéral droit et voir un départ de... Ouais, je pense que ça... C'est, aujourd'hui, il n'y a pas d'offre, je pense, mais c'est ce que le club envisage et la signature de Lucas Boadès va en ce sens, je pense.
Moi, je pense que ce serait pas une très bonne idée. Mais
bon. Et à noter que quand même, il est de 97, donc il a 22 ans, donc c'est aujourd'hui assez tard quand même, 22 ans, pour la signature d'un premier contrat pro. Et je me souviens des dires de Bernard Blacard qui disait « Soyez patient en jeune ». Et on voit qu'un garçon comme Ryan Kemaïs, lui, n'a pas attendu. Il a préféré aller en Tunisie. Et aujourd'hui, ça paye pour des gars comme Théo, comme Lucas, comme les deux Lucas d'ailleurs, comme Kélian. Donc bravo à eux pour leur persistance, leur pugnacité dans le travail.
Bon, moi, j'aimerais bien le garder, Sofiane, hein, quand même, Sofiane à la couche. Hein,
ah bon, je serais bien de le garder.
Ben oui, Sofiane, c'est, malheureusement, cette année, elle était un peu... les blessures l'ont mis un petit peu... de côté, mais je pense qu'il a fait une très bonne saison. C'est un joueur formé au club, c'est un pur Nîmois. On connaît toutes ses qualités, il a été international espoir. Je suis déçu pour lui, qu'il méritait, je pense, de faire partie de l'effectif pour l'Euro. Mais je pense que ses blessures l'ont causé beaucoup de tort. Mais c'est un joueur avec une belle marge de progression, qui va grandir, qui va progresser. Et comme il a dit Benjamin, c'est qu'un joueur qui a l'une des plus grosses valeurs marchandes au club. Donc s'il y a un club qui vient derrière, ça pourrait aussi être intéressant pour le Nîmes Olympique, parce que derrière, on a Renaud Ripard, on a Lucas Boadès, qui peut jouer.
Gaëtan.
Et Gaëtan, exactement.
Ah oui, Gaëtan aussi. Donc, Gaëtan Paquet.
Donc voilà.
Benjamin, on enchaîne avec notre actu.
Oui, Objectif Gare qui nous attend, parce qu'aujourd'hui... Que Vlaco Dimos serait sur le départ, c'est pas une grande surprise. Donc voilà, il rentre pas dans les plans du coach Blacard. C'était un choix globalement de Laurent Boissier qui n'a pas payé, qui n'a pas trouvé le bonheur aux yeux du coach Blacard. Voilà, ça va être compliqué de trouver un club qui va vouloir s'aligner sur ses prétentions salariales, sincèrement. On verra comment ça se passe cet été, mais voilà, j'espère qu'il y aura un accord pour le club et pour lui aussi. Il faut qu'il joue, c'est un garçon qui a quand même des qualités, toi Philo, à jouer avec. Je pense qu'il a les moyens de jouer quand même dans un club sérieux, quoi. Peut-être même en France, en Ligue 2.
Pour un footballeur, passer une saison blanche comme ça, c'est très difficile, c'est très compliqué. Et mentalement, il faut être fort dans la tête. Et c'est vrai que ce joueur-là, il a des qualités. Moi, j'avais joué avec lui en Ligue 2 et il avait démontré des bonnes choses. Et ce n'est pas pour rien qu'ensuite, Laurent Boissier l'a rappelé. Après, malheureusement, en Ligue 1, ce n'est pas passé. Mais c'est un joueur, il a des qualités, il a un bon état d'esprit. Et peut-être qu'il n'est pas fait pour le championnat de France. Peut-être qu'à l'étranger, ça sera mieux pour lui. Donc j'espère pour lui qu'il ne vivra pas une deuxième saison comme celle-là, parce que ce n'est vraiment pas facile, et qu'il jouera. Après, je pense que lui, on lui a fait comprendre que son avenir n'était pas au Nîmes Olympique. Donc à lui de trouver une solution pour intégrer un club qui lui fait confiance, qui joue et qui puisse prendre du plaisir dans sa passion. C'est ça avant tout, le football, c'est le plaisir, c'est de jouer.
Il semblerait qu'il y ait un problème aussi avec la langue, quoi. Qu'il a vraiment un problème avec le français, que la majorité du groupe est français. Tu sais si c'est un problème
Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le groupe professionnel cette année. Mais vous savez que pour s'adapter par rapport à la discussion sur le terrain et en dehors avec les coéquipiers, ce n'est pas évident quand on ne parle pas la langue. Donc ça fait déjà plusieurs années qu'il est ici. C'est vrai que malheureusement, ça, c'est un petit frein aussi. Parce que la langue, parler avec ses coéquipiers... les automatismes, etc., c'est très important.
Donc, l'entraînement, il est un peu isolé, hein, sincèrement. C'est compliqué, quoi. Je pense que c'est surtout un choix du coach, de de Laurent Boissier avant tout, et je pense que ça n'a pas trop collé avec le coach Blacard, malheureusement.
D'accord. On enchaîne avec un autre cas, celui de Christian Mathielou. On en parlait hors antenne justement avec toi, toi Philou Maoulida, directeur du centre de formation depuis 2 ou 3 ans, c'est ça, au NO. Il serait sur le départ. C'est ce que qu'annonce en tout cas Benjamin Carré, journaliste de Goal.com. Ouais. On en parle tout de suite de ce cas-là. Donc toi Philou, tu semblais l'apprendre quand on te l'a dit tout à l'heure. On en sait un petit peu plus, Benjamin, ou pas sur cette
non,
histoire?
Non, du tout. On en parle avec toi, Philou, qui nous dira ce qu'il fera l'année prochaine. On fait le petit teasing pour la deuxième partie.
Ouais.
Mais non, même toi, Philou, ne savait pas encore ce qui en serait. On verra dans les heures à suivre si c'est réellement le cas ou pas. Je suis un peu surpris parce que, pour l'avoir vu très très récemment, notamment au match face à 7 de la réserve, il me semblait en discussion avec Laurent Boissier. Tout ça, c'est un peu surprenant. On verra. Dans les prochains jours, toi Philou, il en saura plus certainement.
Après, ça, c'est pas mon domaine. Je pense que c'est un peu plus haut. Mais comme je vous ai dit, là, j'ai passé, moi, 4-5 jours difficiles. J'étais un peu déconnecté de tout. Donc, c'est pour ça que je suis pas trop au courant. Après, les décisions, moi, ne m'appartiennent pas. Donc, c'est un peu plus haut. Mais je pense qu'il faut souligner déjà le bon travail de la formation nimoise. Ça fait déjà plusieurs années. La formation nimoise se porte bien. On le voit notamment au-delà des résultats. Parce que cette année, quand on voit les U17 qui ont terminé 3e, les U19 4e, la signature de 5 joueurs du centre de formation professionnel, et notamment en Ligue 1, on voit 6 à 7 joueurs du groupe formés au centre de formation.
Ah, c'est énorme.
Et pas des moindres. Quand on voit Renaud Ripart titulaire, Briançon, Bobichon, Théo Valls, Paquiez, Després, Ississan, à la couche. Donc, Jazz. Tout ça, comme quoi voilà, le Nîmes Olympique est un club formateur, a besoin de la formation. Et là, on le voit cette année, c'est y a 6, 7, 8 joueurs formés au club titulaire dans l'équipe. Donc l'importance de la formation. Après, voilà, c'est pour ça qu'il faut souligner le bon travail de tous les éducateurs du centre de formation, ainsi que du directeur Christian Mathielou. Après, son avenir, je ne le sais pas, ce n'est pas moi qui décide, mais je tenais à souligner quand même le bon travail de tous les éducateurs.
Très rapidement,
juste
Benjamin.
Pour rappeler que Nîmes, c'est l'un des rares clubs quand même qui recrute assez localement. Genre, ça va au maximum quoi, à Toulouse, mais jamais à Paris, jamais au-dessus. Voilà, Marseille, Toulouse, Montpellier, Avignon, Nîmes.
C'est globalement juste une dernière chose, c'est qu'on est en Ligue 1, l'équipe qui a fait jouer le plus de joueurs formés au centre de formation. Devant le Lyon, devant PSG, devant Marseille. On est l'équipe qui a fait jouer le plus de joueurs formé au centre de formation du Nîmes Olympique.
Et originaire du Gard aussi.
Exactement.
C'est beau. C'est beau. Soyons chauvins un peu, c'est bien. Bon, mais je vous propose qu'on fasse une petite pause, les amis, petite pause publicité. Oui, c'est ça, c'est la radio. Des fois, il y a de la publicité. On se retrouve dans quelques instants. Et bien sûr, ça sera autour de l'interview de la semaine avec notre invité exceptionnel cette semaine, qui n'est autre que toi, Philou Maoulida. On te remercie encore une fois, toi, Philou, d'être avec nous. Ancien joueur et capitaine, bien sûr, du NO et d'autres clubs. J'en passe, l'OM, Lens, Bastia. Et ça sera l'occasion de revenir sur ta jolie carrière. On n'oublie pas aussi d'aller faire un tour sur la page Facebook Le 11 de Nîmes, et surtout on reste branché sur Rage, hein, sur le www.rage.fr. on se retrouve dans quelques instants, allez bougez pas.
Mais Nîmes, c'est une ville de football.
Je n'ai pas dit que Nîmes n'était pas une ville de football.
Et les Nîmois, cette ouverture du score dès la 9e minute de jeu.
Équipe de Nîmes Olympique.
Cette victoire, Nîmes confirme ainsi ses prétentions du début de saison.
C'est un fief du foot. Cette tribune que vous voyez, toute rouge, c'est assez rare dans le foot français.
Il y a un amour immodéré pour ce club.
Cet après-midi, encore une fois, le public a répondu présent, donc c'est magnifique pour nos joueurs, c'est super.
Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique sur Rage.
Allez, on est de retour donc dans cette émission Le 11 de Nîmes sur l'antenne de Rage. Vous êtes toujours branchés peut-être sur le www.rage.fr. Du côté de Nîmes sur le 102.5 en FM et du côté d'Avignon sur le 90.3. Je vous le disais, on n'oublie pas d'aller faire un tour sur la page Facebook et sur le Twitter du 11 de Nîmes pour avoir de l'actu fraîche, bien sûr, sur le Nîmes Olympique. Eh bien, vous savez quoi, sans tarder, on va enchaîner et on va retrouver tout de suite notre invité, notre interview de la semaine qui n'est autre que toi, Philou Maoulida. C'est parti.
Le 11 de Nîmes. L'interview de la semaine.
tout d'abord, ben, merci encore, toi, Philo, d'être avec nous aujourd'hui. Tu es notre invité, notre interview de la semaine. Tu es né le 8 juin 1979. Autrement dit, tu as fêté tes 40 ans dans deux jours. Donc, joyeux anniversaire d'avance. Merci. L'occasion, voilà, de te souhaiter ce joyeux anniversaire en direct sur l'antenne. Nous revenons un petit peu sur tes débuts. Tu es né donc sur l'île de Mayotte. Alors, pour vous aider, Mayotte se situe dans l'archipel des Comores, juste au-dessus du Madagascar, dans l'océan Pacifique. Voilà pour la précision géographique. L'océan Indien.
Oh, pardon.
Ah ben voilà.
Aïe, j'ai raté mon
voilà. On a voulu faire les beaux et dire des trucs un peu intellect, mais non, ça c'est pas passé. Merci en tout cas pour la précision. Tu viens ensuite habiter en France métropolitaine du côté de Marseille, où tu grandis au nord de la cité phocéenne et notamment à l'ES Malpassé, un club du 13e arrondissement du nord de Marseille. Tu rejoins ensuite le FC Istres durant une saison et c'est là que Montpellier te repère. Alors raconte-nous rapidement ton passage à Montpellier, rapidement, parce que c'est une émission sur le Nîmes Olympique. Bien sûr, tu t'en doutes.
J'ai fait une année au centre d'hébergement de Istres en 17 ans nationaux. Et dans le groupe, on avait Montpellier. Et j'avais terminé meilleur buteur de mon équipe. Et c'est de là que le directeur du centre de formation de Montpellier me repère. Et ils viennent à Marseille pour me proposer un contrat pour intégrer le centre de formation de Montpellier, tout simplement.
Donc tu disputes ensuite deux finales de Gambardella avec Montpellier, une perdue et une gagnée, où tu ne joues pas. Tu débutes en 97 pour ton premier match en professionnel avec Montpellier, club avec lequel tu évolueras 5 saisons en pro, en prenant part à 140 matchs quand même, pour 30 buts, vraiment pas mal, ce qui constituera, tu ne le sais pas encore, ta plus longue période dans ta carrière dans un club. Tu connais d'ailleurs une sélection avec plusieurs sélections avec les espoirs, 15 sélections, tu nous l'as dit hors antenne et je rectifie donc. Que tires-tu de ce passage à Montpellier pour la suite de ta carrière et peut-être même aujourd'hui encore pour l'aspect formateur?
Ça remonte à longtemps, déjà ça remonte à très loin, mais c'est le début, c'est là que tout a commencé, donc j'en garde que des bons souvenirs, parce que je me rappelle une pensée pour Loulou Nicolin de là-haut, parce que c'était comme un deuxième papa pour moi, c'est avec le directeur du centre de formation Jacques Bonnet, ceux qui sont venus me chercher à Marseille. J'ai signé mon premier contrat professionnel, j'ai joué mon premier match professionnel en Ligue 1 et mes premiers buts. Donc voilà, c'est tout a commencé, c'est ma formation, j'ai été formé là-bas, j'en garde des bons souvenirs, mais voilà, ça m'a permis de démarrer une longue carrière et on m'a donné tous les ingrédients, les éléments en me formant du mieux possible pour faire une bonne carrière derrière.
Bon, comme quoi, ça nous arrive de parler de Montpellier en bien dans cette émission.
On dit qu'on est chauveux, en fait.
Alors, 2002, c'est le grand changement pour toi. Tu rejoins la Bretagne et Rennes, puis la Moselle et Metz, le Sud à Monaco et ses casinos, et enfin l'OM en 2006, où tu côtoies des joueurs comme Niang, Carasso, Ribéry, Nasri, Cissé ou encore Pagis et Oruma, ancien Nîmois. C'est d'ailleurs durant cette période que tu inaugures tes premières bandelettes très connues et qui vont constituer l'une de tes marques de fabrique à chaque but. Et voilà, moi j'adore ces bandelettes, donc c'est pour ça que c'était important de le préciser.
Il nous saoule depuis le début de la saison avec ces bandelettes.
C'est une petite blague, une petite private joke entre nous, les bandelettes. Alors retour aux sources, hein, dans le club de ton cœur, à Marseille, c'était le sommet de ta carrière. Tu as été vice-champion de France et finaliste de la Coupe de France. Pour toi, malgré un passage relativement court, c'est un des meilleurs souvenirs de ta carrière, tu penses?
On va dire en termes sportivement, parce que c'est à Marseille que j'ai connu le très haut niveau. J'ai connu la Ligue des Champions, j'ai connu des internationaux comme Fabien Barthez, Ribéry, Nasri. C'est vraiment sportivement l'apothéose. J'étais vice-champion de France derrière l'Olympique Lyonnais. Deux finales, Coupe de France et perdu malheureusement. Mais voilà, sportivement, c'était vraiment le summum de ma carrière.
Mais justement, on va s'écouter un petit extrait de Skyrock et on va aller faire un tour du côté de Marseille avec Psychiatre de la Rime qui t'avait fait une petite dédicace à l'époque, puisque toi, tu leur avais fait une dédicace, notamment avec l'une de tes bandelettes. On se remémore tout ça.
Voilà. C'est lui qui aime trop faire ça. Il aime trop faire ça.
Et sur la bandelette, c'était écrit « Entrer dans la quatrième dimension avec les Psychiatres de la Rime ». Voilà, toi Philou Molida, à un moment donné, c'est la folie quoi. Big respect, merci beaucoup, c'est énorme.
Ah, tu rentres dans notre cœur d'une manière incroyable.
Oh là là, zin. Ah.
C'est vrai, vous l'avez vu en temps réel ou pas?
On était en concert et
à Perpignan, on était.
Plein de gens qui nous envoient des textos. Toi Philou, il a fait un truc de fou. On disait, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et d'un coup, on voit des photos où avec il a un grand sourire parce qu'il a marqué, bien sûr.
Ouais, bien sûr.
Et en plus, il a fait
deux buts, il a fait un doublé.
C'était en concert, on n'a pas vu le match.
Et voilà, et on a vu qu'il a sorti le bandeau, et en plus, même aux interviews, même dans les interviews pendant le match, il arrive à incruster des petites phrases.
Non, non, c'est cool.
Ah ouais, franchement, il nous a beaucoup touchés, ça nous a.
Ah ouais.
Voilà.
Donc voilà, c'était psychiatre de la rime, des bons copains du coup encore ou pas ?
C'est la famille.
C'est la famille.
Soprano, Alonso, Vincenzo. Ben, c'est la famille, on vient de Marseille.
C'est le gang des Comorés.
Exactement, on vient de Marseille, des quartiers nord. Et c'est des personnes très proches. Et ça me tenait à cœur de sortir cette bande lettre parce qu'ils avaient sorti leur album. Et j'avais dit, si j'ai la chance de marquer, je leur ferai un petit clin d'œil. Et ce jour-là, on gagne 4-2 avec Bastia à Valenciennes. Je mets un doublé et voilà. Juste avant la sortie de l'album, il n'y a pas mieux comme promo.
Ah, c'est le meilleur plan com de sortie d'album, c'est magnifique. Alors viens ensuite, après l'OM La Bourgogne, où tu rejoins de mémoire Jean Fernandez, entraîneur que tu apprécies et que tu as connu à Metz et à l'OM. Mais Lydie, le tourne mal puisque tu ne disputeras que 15 petites rencontres de Ligue 1 avec un but marqué. On se souvient notamment de ce double pénalty raté à l'Abbé des Champs. Notamment, qu'est-ce qui s'est passé ?
Ben, je pense que c'est dû à ça. Je pense que c'est dû à ça, ma période très courte à Auxerre, où avant d'arriver, je venais de Marseille, j'étais la recrue phare. Et ce jour-là, ben, j'ai pris mes responsabilités. J'avais raté le premier pénalty et je voulais tirer le deuxième. Et ben, ça tape le poteau, malheureusement. Et ensuite, après, les supporters m'ont pris en grippe. Donc de là, c'était très compliqué à continuer. Donc à chaque match, voilà, le public exigeant de l'Abbé des Champs m'est pris en grippe. Donc ensuite, C'était difficile et je suis parti à Lens parce que, en sachant que j'étais venu à Auxerre en grande partie pour M. Fernandez. Parce que, comme vous l'avez dit, il m'avait recruté à Metz, il m'a recruté à Marseille et on avait une relation particulière. C'était comme un peu mon mentor. Et ensuite, voilà, les deals, c'est terminé, c'est mal terminé. Et ensuite, 4 belles années à Lens.
Oui, justement, tu pars à Lens en 2008 et tu vas vivre la remontée en Ligue 1 et tu te distingueras notamment pour une main subtile qui te permet de t'amener le ballon vers l'avant que tu catapultes ensuite dans les cages de Nicolas Puydebois un soir d'août 2008 dans des costières bondées face au Nîmes Olympique. Tu peux revenir, tu te souviens de ce moment et de cette action et de l'ambiance aux costières ce soir-là ?
J'ai toujours pas oublié, moi. 11 ans plus tard, j'ai toujours pas oublié.
Mais je m'en souviens, en plus, c'est vrai qu'au club, on n'a pas oublié parce que le directeur de la préfaut, Thierry Lorenzo, il a la photo en poster dans le bureau.
Sérieux ?
De la main avec le défenseur Nîmois. Et à chaque fois que je vais lui dire bonjour, je la vois la photo au-dessus du bureau. Donc, non, j'ai pas oublié parce qu'en plus, nous, on jouait la montée. Je me souviens, on jouait la montée en Ligue 1 et Nîmes jouait le maintien. Le stade était rempli. Il y avait 18 000, il y avait la folie aux Cossières. Et j'avais mis un doublé ce jour-là et c'est vrai que le deuxième but...
C'était la main de Dieu, là. La main de Dieu, j'ai envie de dire.
Ouais, le deuxième but, voilà.
C'était le premier but, celui-là, de la main.
Ah oui, c'est le premier but, pardon.
Le second, c'est une passe en retrait, je crois.
Ouais, c'est ça, exactement.
T'avais Kelly Croupy qui avait vendangé ce soir-là aussi, pour ceux qui s'en souviennent.
Alors, tu pars ensuite en 2011, où tu quittes le Nord pour rejoindre un tout autre climat, hein, celui de la Corse, hein, plus sympa quand même, au SC Bastia, où tu vas là permettre au club insulaire de remonter en Ligue 1, puis de se stabiliser avec notamment Fétiaré, qu'on connaît bien, ou encore Jérôme Roten ou Florian Thauvin, que le coach Blacard a formé quand il était à Grenoble au centre de formation. Un moment très fort là aussi pour toi, tu as l'air toujours attaché à la Corse aujourd'hui. Hein.
Oui, c'était vraiment particulier ce passage parce que le club... On sait que Bastia est un club historique du football français et Bastia a failli couler. Ils ont fait la montée de National 1 en Ligue 2, de Ligue 2 en Ligue 1, mais avant ça, c'était très compliqué. Et je venais de Ligue 1, de Lens, j'avais ce projet, ce challenge qu'on m'avait proposé de faire remonter Bastia au plus haut niveau. Et ça s'est très bien passé, surtout voilà, la première année, on est monté, j'ai amené meilleur buteur. C'était une aventure humaine extraordinaire parce que il y avait Jérôme Roten et moi, et le reste, c'était que des jeunes joueurs qui n'avaient jamais connu le plus haut niveau. C'est là où j'ai rencontré Fétiaré, qu'ensuite on s'est suivi à Nîmes, aussi Mathieu Robaille, qui était avec nous aussi à Nîmes. Donc, c'était vraiment des bons moments. Et après ces 3 années en Corse, voilà, moi, je suis insulaire, je viens de Mayotte, je viens des îles. Et comme j'ai toujours dit, c'est que c'est nous, les joueurs, qu'on doit s'adapter à la Corse, c'est pas la Corse qui doit s'adapter à nous. Donc moi, en arrivant là-bas, en toute humilité, je me suis adapté à cette île-là et ils me l'ont très bien rendu, que ce soit sur le terrain et en dehors. C'est pour ça que c'est une île à laquelle je suis très attaché.
Et puis vient 2014, l'apogée de ta carrière au football éthique, tu rejoins le Nîmes Olympique, ça y est, donc c'est la Champions League, non je rigole. Donc fidèle aux aventures de ta carrière, tu vas connaître des péripéties incroyables durant 2 ans, mais aussi une issue plutôt positive sportivement parlant pour toi, puisque le club se sauve lors d'une saison historique avec moins 8 points en Ligue 2. Habile communicant, tu lanceras un discours historique à la gare de Nîmes au retour de Tours. La transition est toute trouvée, hein, c'est ton dernier club avec 13 matchs. Et puis s'en vont et tu finis une carrière bien remplie en 2017. On passera ta fin au Nîmes Olympique où tu n'arrives pas à t'entendre avec les dirigeants pour prolonger ton bail au NO, mais ça a l'air de s'être arrangé en interne puisque tu fais toujours partie du staff. Oui, vas-y.
Sur ça, je vais juste rectifier. Il n'y a pas eu d'accrochage. D'accrochage ou autre. Je veux juste préciser, c'est que. À la fin de mon contrat à Nîmes, j'ai rencontré M. Blacard avec M. Bossé dans les bureaux. Et tout simplement, M. Blacard, c'est pour ça qu'on s'est toujours bien entendu, c'est qu'il m'a dit sportivement, toi Philou, l'année prochaine, je compte sur les jeunes. C'est tout simplement pour ça. C'est pour ça que je suis parti. Il n'y a pas eu de contrat d'argent, pas du tout. Il m'a fait comprendre honnêtement comme... les 2 années que j'ai passé avec lui, ça s'est très bien passé, j'étais son relais, en me disant voilà, l'année prochaine, je vais plus me baser sur les jeunes, notamment ils ont recruté Bozok, Aléoui, des plus jeunes, et tout simplement. Et c'est de là que j'ai dit j'ai envie de continuer ma carrière de jouer. Et c'est pour ça que je suis parti à Tours, tout simplement.
Mais c'est bien que tu le précises, voilà, parce que c'est vrai quand on lit juste les journaux, quoi, on entend beaucoup de choses.
Non. Et là, je vous le garantis, vous pouvez demander à M. Blacard, et je me souviens, comme si c'était hier, cette discussion dans le bureau, il m'a dit, toi, Philou, voilà, tu arrives à un âge où c'est plus compliqué de jouer, et j'en étais conscient, c'est pour ça que je voulais encore jouer. Je suis parti à Tours, malheureusement j'ai peu joué, mais c'était ma volonté de jouer un peu plus.
Bon, en tout cas, j'ai envie de revenir et qu'on s'écoute ce passage donc à la gare avec ton discours, un vrai meneur d'homme. D'ailleurs, il me semble que Benjamin, t'y étais, on te voit sur les images, donc t'es grillé. Donc on se remémore ça. Donc toi, Philou Maolida, à la gare de Nîmes face aux supporters.
Au nom de tout le groupe professionnel du Nîmes Olympique, on tenait à vous remercier pour tout le soutien sans faille que vous avez eu envers nous, dans les bons comme dans les mauvais moments, et ça l'oubliera jamais. Il y a beaucoup de monde qui a sali le Nîmes Olympique, qui a voulu nous enterrer, qui a voulu nous mettre plus bas que terre. Depuis 2 ans, on vit des moments difficiles, mais sur le terrain et en dehors, on a montré qu'on ne lâchera rien. Et un grand merci à vous, les gars. On a juste...
Voilà, ça dure un petit moment, mais c'est un moment vraiment mémorable donc pour nous, supporters nîmois.
On n'a pas le moment où il demande aux supporters si on peut faire plus fort pour qu'ils nous entendent jusqu'à Montpellier.
Ah ouais, bah, l'extrait dure 3 minutes, donc je préfère garder ces 3 minutes pour parler avec toi qui est avec nous. Est-ce que tu as réalisé tes 2 saisons les plus difficiles extra-sportivement à Nîmes?
Juste avant ça,
sur cet extrait.
En réécoutant cet extrait, c'est beaucoup d'émotions.
Ah oui.
Parce que je me souviens à la gare, et c'était après un match compliqué, une année très compliquée, difficile, mentalement, dans les têtes. On avait une équipe très jeune, et sans rien vous cacher, je ne le dis pas pour faire plaisir à quiconque, parce que je suis quelqu'un de très sincère. C'est dans ma carrière, ces 2 années ont été les plus difficiles, mais les plus belles. Parce que j'ai vécu une aventure humaine extraordinaire, comme personne, aucun autre footballeur pourra vivre, je pense. Parce qu'on était à 2 doigts de le club coule au plus bas. Je me souviens aux arènes, le discours, où y a peu de joueurs qui c'était pas facile. J'ai dû improviser un discours, parce qu'on nous avait dit, le capitaine et les autres, tu dois y aller parler aux supporters, à la télé, etc. Et ensuite, derrière, l'aventure humaine avec les moins 8 points, avec une bande de gamins. Et on était 2-3 anciens avec Fethi. C'était pas facile, je vous le dis. Et je me rappelle même en décembre, à la trêve, on avait moins 11 points quand on avait perdu à Laval. Et il y a des moments comme ça, comme le discours qu'on a pu avec les anciens avoir dans le vestiaire autour des jeunes. Et juste après la trêve, le stage au Gros du Roi, qui nous a sublimé pour la suite. Et on est allé chercher ce maintien avec tous les supporters et tous les Nîmois qui ont cru. Donc c'est pour ça que quand on dit impossible n'est pas Nîmois, c'est vraiment réel.
Ouais, c'est ça. Tu débarques à Nîmes pour un projet sportif, pour amener le club en Ligue 1. Au final, malgré toi, tu deviens fer de lance de ce passage à vide où on passe par, par toutes les émotions, comme tu as dit. Quand on a moins 11 points, je pense qu'il n'y avait pas grand monde dans les 5000 personnes qui venaient au Costières à ce moment-là, en hiver, qui y croient encore. Je me rappelle d'un Nîmes-Le Havre où on perd 2-0, où tu rentres à 20 minutes de la fin, je crois, et tu mets 2-2 et t'es pas loin d'en mettre un 3 aussi à la fin. Et après, il y a ce mois de janvier qui débarque après et où tout le monde reprend espoir, où au final, on est dernier, on remplit les Costières à tous les matchs, c'est fou. Et ouais, la fin est magnifique, mais qu'est-ce qu'on en a chié avant, quoi.
Donc, on rappelle rapidement pour les auditeurs, hein, c'était une affaire de match présumé truqué, donc Nîmes avait eu une sanction de moins 8 points, et comme tu le disais, Baptiste, on n'aurait jamais parié que Nîmes se maintiendrait en Ligue 2 cette saison-là avec ses moins 8 points, c'est vraiment...
C'est ça.
On s'en souvient tous. Hein.
En Europe, il n'y a que la Juve qui avait réussi ça en Serie B, à remonter après leur histoire de match truqué, mais... Enfin, je pense que même aujourd'hui, on ne s'en rend pas tous compte de ce qui s'est passé, mais c'est quelque chose de fabuleux. Et
le match face à Lens, c'était incroyable.
Ouais, le match face à Lens, on a l'impression que c'est un match de montée un peu.
Je me souviens avoir vu des larmes même dans la tribune sur ce match, plus que même face au match face à la montée, face au Gazélec. C'était encore plus fort émotionnellement parce qu'on a l'impression de tout simplement être mort. Et on est ressorti, on a rejailli de manière incroyable avec des jeunes comme Mounier, des anciens comme toi, Filou, des Renault qui sont des symboles de Nîmes qui rejaillissent. C'était une saison émotionnellement peut-être encore plus forte que celle de la montée. Ça paraît incroyable à dire, c'est ça qui est fou.
C'est pour cela que j'ai dit, en 20 ans de carrière, des émotions comme ça, je n'en avais jamais vécu, et ce sont les plus belles parce que comme j'ai dit, on a sauvé un club, une ville, des salariés. C'était énorme parce que même nous, les joueurs, au départ, à la trêve, à moins 11 points, on s'est dit que ça va être difficile. Mais quand après, on a su avoir ce discours avec les anciens et ce stage au Gros du Roi qui nous a remobilisés avec l'arrivée de Blacard. Mmh. Donc, et cette bande de jeunes insouciants, comme j'ai dit, je les appelle mes petits fous, là, de Briançon à Valls.
Ils sont encore là, c'est ça qui est
bon. Ah ben oui, ils sont encore là, je les vois, ça me fait toujours plaisir parce qu'on se remémore toujours ce qu'on a fait, d'où on vient, et on n'oublie pas. C'est pour ça que je prends toujours un réel plaisir de les saluer quand je suis de la formation à côté. Et voilà, et pour finir, je voulais juste aussi souligner tout le travail et tout ce qui a pu amener aussi une personne qui est dans l'ombre, c'est Monsieur Assaf, parce que on peut dire tout ce qu'on veut sur la personne, mais depuis toutes ces années où il est au club, il a beaucoup investi, il a beaucoup donné de sa personne, et si le Nîmes Olympique aujourd'hui en est là, c'est une grande partie, voire grâce à lui. C'est pour ça que c'est une personne qui aime être dans l'ombre, mais il mérite la lumière. Et parce que, je peux vous dire, c'est pas facile. On l'a vu, tout ce qui s'est passé, et il a fait beaucoup pour le club, notamment aussi Laurent Boissé, tout le staff professionnel de M. Blacard, Arpinon, Gilles Seb, et tout le reste. Vraiment, un gros coup de chapeau à l'ensemble du club.
Messieurs, oui, Benjamin.
Juste pour du coup rebondir sur ce groupe, est-ce que toi, quand tu es parti, tu t'attendais à ce qu'ils aillent derrière aussi loin, qu'ils confirment et qu'ils arrivent carrément à monter, et même aujourd'hui encore mieux, à finir dans le top 10 de la Ligue 1? Est-ce que toi, ça t'a surpris, ou quelque part cette saison, t'as même pas été surpris? Tu t'es dit, mais c'est normal, c'est évident.
Mais j'ai pas été surpris, parce que je me souviens, si vous vous rappelez bien, c'est que l'année, quand on apprend que le club, on est obligé de monter en Ligue 1 pour se maintenir, avoir les moins 8 points.
Oui.
Ben on a failli, on n'était pas loin.
Vrai, ouais.
Je me rappelle, c'était le match à Auxerre où on le perd, mais si on gagnait Auxerre, on était encore à la lutte. On était à la lutte pour monter. Déjà là, on a failli. Après, quand on perd à Auxerre, c'était compliqué, mais déjà là, on a failli monter. Mmh. Et après, la suite, moi, je le savais qu'avec ces jeunes... la qualité qu'il y avait. En plus, après, il y a des joueurs qui sont venus nous renforcer, comme Savanier. J'étais persuadé qu'ensuite, c'était tracé pour monter en Ligue 1. Le chemin était tracé, et 25 ans après, c'est le plus beau des cadeaux pour les Nîmois.
Alors après une dernière saison à Tours, après le Nîmes Olympique, tu passes donc tes diplômes d'entraîneur, et tu peux aujourd'hui coacher, notamment les U19 cette saison. L'année passée, tu as été l'adjoint de Mathiello, donc coach des U19 et directeur du centre de formation. Tu avais déjà été épaulé par coach Blacard quand tu jouais en tant que joueur il y a 2 ans, prenant quelques fois des U17. Déjà, comment tu as appréhendé et vécu cette première saison? C'est un vrai cap passé, tu te sens prêt à prendre une équipe maintenant?
Ah oui, j'ai pris énormément de plaisir. Après, j'ai commencé en sachant que j'ai passé mon BEF en 2016, quand j'étais encore en activité joueur au Nîmes Olympique. Et quand M. Blacard était entraîneur des 17 ans et directeur du centre, c'était mon tuteur et j'étais son adjoint avant qu'il intègre les professionnels. Et ensuite, là, cette année, c'est ma deuxième année en tant qu'entraîneur avec les U19, en binôme avec Christian Mattiello, qui m'a beaucoup délégué cette année. Parce qu'en sachant que travailler de directeur de formation, il faut s'occuper de tout, de la scolarité et tout ça. Donc, il m'a énormément délégué et conseillé, corrigé. Et ça m'a apporté énormément. Et cette année était exceptionnelle. J'ai vécu une année exceptionnelle avec mes jeunes 19 ans où on est allé chercher cette quatrième place. Ce match de Gambardella contre Montpellier qui a failli passer, on n'était pas loin. Mais voilà, une très belle année enrichissante. Et le plus important pour nous, la formation, c'est de former des joueurs. Après, le résultat passe après. Et quand on a vu sur les 5-6 derniers matchs, on a fait jouer 6-17 ans avec les 19 ans. Et ça, c'est une force. Et c'est ce qu'on souhaite, nous, c'est la formation avant tout. Et quand on voit le bon résultat des 17 ans derrière aussi. Donc voilà, c'est vraiment une belle année. Et oui, je suis prêt à entraîner en tant qu'entraîneur principal.
Très bien.
Et moi, je me souviens.
On
rebondit là-dessus.
Vas-y.
Tu peux donc nous annoncer ton avenir au Nîmes Olympique pour l'année prochaine?
Non, il n'y a pas de souci. On m'a proposé un contrat. Donc, je vais l'accepter. Donc, avec tout ce qui s'est passé personnellement par rapport à mon frère, je n'ai pas pu rappeler le directeur sportif, mais je vais le faire pour lui dire que j'accepte ta proposition et que l'année prochaine, je prendrai en charge une équipe du centre de formation. Donc, je suis content, c'est que je suis récompensé de mon travail. Et voilà, et en plus, cette année, j'obtiens mon diplôme, mon DES, mon second degré. Donc, c'est vraiment l'aboutissement de tout un travail.
Une équipe qui ne devrait pas être les U19, mais les U16, donc, c'est ça?
C'est ça, les U16 élites, en sachant qu'avec la réforme, les 16 ans pourront jouer qu'avec les 16 ans. Donc, ça sera au centre de formation, il y aura les U16 élites, les 17 ans nationaux, les 19 ans nationaux et la N2. Donc, voilà, je suis content d'avoir en charge une équipe du centre de formation et qu'on me le propose.
Moi, j'ai envie de revenir un petit peu sur le style de jeu de cette équipe U19 que tu as eue cette année, qui est vraiment une équipe de battants. Moi, j'ai pu le voir sur le match en Gambardella contre Montpellier. On avait l'impression, mais le même état d'esprit un peu qu'on peut retrouver dans l'équipe 1, une équipe qui lâche rien, alors qu'en face, il y avait des gars vraiment costauds qui avaient des contrats pro et tout à Montpellier. Donc, un niveau au-dessus, on peut le dire. Vous avez tenu tête. Est-ce que c'est justement ça, cet esprit nîmois, on le retrouve dans toutes les autres équipes de l'asso?
Ben c'est ce que nous, on souhaite et qu'on met en place avec nos jeunes. On s'identifie beaucoup à l'équipe première, sachant que l'équipe première a joué un rôle de... Ils nous ont amené cette dynamique-là. Déjà, cette dynamique-là de la montée de Ligue 2 en Ligue 1 et ensuite ce maintien-là. Et nous, on s'appuie sur ça. Tous les détails concernant les professionnels, leurs courses, tout ce qu'il y a qui concerne, on les met... à disposition des jeunes, en leur disant regardez ce qu'il y a, parce qu'en 19 ans c'est à peu près la dernière étape à franchir avant de signer professionnel, donc moi en ayant connu le monde professionnel, je leur dis ce qu'il faut pour passer là-dessus. Quand on voit les joueurs comme Ripar, Sada Choub, qui sont les joueurs qui courent le plus en Ligue 1, donc on leur dit pour arriver en professionnel et en Ligue 1, il faut passer par là. Et on s'appuie notamment sur les valeurs du Nîmes Olympique. Nous, on a peut-être moins de budget que les autres, mais c'est la détermination, c'est l'abnégation, c'est la persévérance, on lâche rien, la combativité. Il n'y a pas que ça, parce qu'on joue au football, mais ces valeurs nous tiennent vraiment à cœur.
On enchaîne avec une autre question, les gars?
Ouais, non, mais pour rebondir sur la formation dont on parlait en antenne, c'est vrai que le travail et la formation est quand même assez incroyable au Nîmes Olympique. Toi, Phil, nous disait que le budget, ne serait-ce que comparé avec Montpellier, il est 4 fois moindre, peut-être même plus. On parlait aussi d'équipes comme Rennes. Voilà, c'est un tout autre niveau et ils arrivent quand même à sortir des garçons, comme le disait toi, Philou, à juste titre, de nombreux professionnels, et ça, on le doit. Notamment, je pense au coach Blacard qui donne une énorme confiance, d'une part à ses formateurs et d'autre part à ses jeunes joueurs. On l'a vu, il aime beaucoup faire entrer dans son groupe pro ces jeunes. Et aujourd'hui, ça paye puisqu'ils vont signer pro, ils vont être prêtés. Et puis peut-être un jour, on les retrouve en Ligue 1, on l'espère en tout cas. Donc moi, perso, c'est plutôt un bravo pour cette formation nîmoise. Voilà.
Et comme l'a souligné Benjamin, c'est la chance pour nos jeunes d'avoir au quotidien M. Blacard qui vient les voir. M. Blacard, il vient quand même dans les matchs. Il vient voir comment ça se passe. Il connaît la majorité des jeunes du centre de formation. Donc, pour un entraîneur professionnel, c'est énorme.
C'est pas le cas de tous les clubs.
Et ils ont cette chance-là. C'est pour ça qu'on leur dit, vous avez beaucoup de chance d'avoir l'entraîneur professionnel qui est un formateur et qui aime les jeunes. Donc, voilà, par rapport à d'autres clubs, où les jeunes n'ont pas leur chance. Donc,
ce match de Gambardella, il y avait aussi toute l'équipe 1 qui était là pour regarder le match. C'était magnifique. Quoi. C'est des trucs qu'on
ils
voit.
Oublient
qu'on
pas,
voit
ils n'oublient pas, ils oublient pas d'où il vient. Et c'est quelque chose d'énorme dans ce club. C'est ça qu'on voit. Voilà, j'espère que ça va durer aussi longtemps, cette mentalité, cette solidarité à tous les étages. Parce que l'équipe première a besoin des jeunes d'information pour vivre. Comme actuellement.
Ouais, Benjamin.
Et c'est vrai que on dit souvent Nîmes Olympique très amateur, très peu de moyens, mais en fait on voit que l'organisation verticale du club elle marche très très bien puisque comme le dit à juste titre Toffilou, les pros sont assez proches des jeunes, le coach connaît très bien les entraîneurs d'en dessous. On parlait aussi avec Seb Jiménez qui a une très bonne relation avec les entraîneurs des gardiens de la formation. Donc il n'y a pas de moyens, mais la structure elle me semble très réduite, mais très efficace en fait dans le fonctionnement. Donc c'est quand même le Nîmes Olympique travaille pas si mal que ça en vérité.
Et le but c'est de développer tout ça. C'est que la première année quand même que le club après 25 ans est en Ligue 1. Donc laissons le temps de développer le club, mais le club doit se développer parce que pour se pérenniser en Ligue 1, on doit se développer par rapport aux moyens des autres clubs. Parce qu'après avoir beaucoup plus d'argent, beaucoup de plus de joueurs, donc il faut qu'on se développe, que ce soit dans les structures, que ce soit dans en termes d'éducateurs, etc. Il faut se développer, on n'a pas le choix. Si on veut se prendre en Ligue 1, il faut se développer sur tous les points de vue.
Moi, je voulais parler un petit peu de l'équipe 1, revenir sur cette saison, revenir aussi sur TJ Savané, qui a joué aussi à Montpellier, que tu connais bien, puisque tu as joué avec lui, il me semble, non ? T'as joué avec
oui,
TJ ?
Oui,
t'as
Nîmes,
joué
quand même.
À Nîmes, ouais. Et qu'est-ce que tu as pensé de sa saison juste exceptionnelle ? Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont être les plus gros chantiers pour l'équipe 1 cet été ?
Pour l'équipe 1, d'abord, c'est garder le noyau, quoi, la base, la colonne vertébrale. Si on a, après, malheureusement, on est le plus petit budget de France. Et quand on a l'un des meilleurs gardiens, que ce soit Bernard Denis, le meilleur milieu de terrain, Savané, ça va être compliqué. Donc, c'est compliqué. Et on sait très bien que la colonne vertébrale dans une équipe, c'est la base. Donc, si... voilà, c'est des joueurs essentiels. Savané... je peux vous dire, quand on voit les stats, quand sa présence, quand il est là, quand l'équipe commande, n'a pratiquement jamais perdu, et quand il n'est pas là, on voit les stats.
C'est une question de temps. Donc, on n'a pas gagné un match sans lui. Ouais.
Donc, je pense que si on peut le garder, ça serait fantastique. Mais après, malheureusement, on ne peut pas refuser certaines offres. Pour qu'un club comme Nîmes Olympique ne peut pas refuser des offres, si on met 10 millions sur la table, je ne pense pas que qui va refuser. Ce n'est pas possible. Le football d'aujourd'hui, pour la pérennité du club, c'est impossible. Mais moi, je suis le premier pour dire, espérons qu'il reste.
Entre nous, toi, Philou, il mérite mieux que Montpellier, quand même.
Comment ?
Il mérite mieux que Montpellier, entre nous, quand même.
Après, c'est lui, c'est son choix. C'est le choix du club, parce que le club, ils peuvent très bien aussi accepter l'offre de Montpellier. C'est le choix du club, le choix du joueur. Parce que dans une proposition, il y a le choix du club, parce qu'il est sous contrat. Il faut savoir que TJ Savané est sous contrat. Donc, il y a le club et le joueur. Donc, si le club est d'accord que le joueur n'est pas d'accord, il ne partira pas. Mais s'il y a l'accord des deux, ben, c'est à lui de décider.
Et Laurent Boissy, en plus, qui a annoncé dans la presse qu'il voulait vraiment garder Savané à la sortie il y a deux jours, je crois, sur Objectif Gare, c'est
ça ? Oui, et puis que si vous voulez accepter l'offre d'un grand club, qui dirait oui, mais donc ça ne concerne pas Montpellier. Donc,
Une autre question, les gars, peut-être pour terminer avec toi, Philou. Il nous reste encore quelques minutes avec lui.
Peut-être revenir sur ce match de Gambardella, toi qui a été à la formation à Montpellier. Tu as dû connaître des derbies aussi en tant que jeune. Tu as connu aussi des derbies à Ajaccio avec Bastia, des Lille-Lens. À quel degré tu situes, à niveau tu situes ce derby Montpellier-Nîmes, que ce soit chez les pros ou à la formation?
Il fait partie avec Lyon-Saint-Etienne, on va dire, des derbies les plus chauds, hein, voire le plus chaud. Hein. Là, c'est que la première année, on a vu tout ce qu'il y avait autour, notamment tout ce qui est l'animosité entre les supporters, la vie à la Mousson. On l'a vu au retour avec le magnifique tifo des supporters nîmois. C'est énorme, et je pense que à part Lyon-Saint-Etienne, les autres, c'est Lille-Lens, c'est beau derby, mais en termes déjà, on va dire, d'ambiance, de ferveur, d'engouement autour, ça équivaut même à Lyon-Saint-Etienne, même ça peut même passer devant.
Et juste pour terminer, comment ils ont réagi justement ces jeunes, quand autant de monde, c'était la première fois qu'ils avaient autant de... comment ils l'ont vécu, t'as eu des retours après dans le vestiaire, comment tu...
Ils ont été sublimés, on a mené 2-0 assez rapidement. Après, malheureusement, mais ça joue sur l'expérience. Je pense que le collectif montpellierain qui a beaucoup plus d'expérience, ils ont gagné la Gambardella, ils ont été champions de France, ils font les Youth League. Donc sur l'expérience, on a manqué d'expérience sur la fin, mais c'était une expérience fabuleuse pour nos jeunes joueurs. Il y a eu à peu près 800 000 personnes, des supporters qui étaient derrière. C'était fantastique. Donc c'est des moments, comme j'ai dit, que parfois on ne vit qu'une fois. Donc à eux d'en profiter. Et l'entraîneur rendu, parce qu'ils ont rendu une belle copie du football nîmois. Ils ont répondu présent, mais malheureusement, les pénaltys, c'est la loterie. Mais
ouais, c'était compliqué, voilà. Bah, c'était un très beau match, en tout cas moi j'y étais, j'en garde un très très bon souvenir de cette équipe U19. C'est le moment de se quitter, malheureusement on aurait aimé faire encore une heure avec toi, toi Philou Maoulida, donc ancien joueur et capitaine du Nîmes Olympique.
On sort la bandelette.
Allez, on sort la bandelette, c'est le moment. Merci toi Philou, voilà.
Merci à vous. Voilà, elle fait partie des belles bandelettes alors.
Ah oui, celle-là on l'a travaillée. On voulait la mettre dans la chaussette aussi, mais on s'est dit que bon, c'est bon, on n'a pas de chaussette de foot. Donc, en tout cas, on tenait vraiment à te remercier pour être venu dans cette émission le 11 de Nîmes. C'est un plaisir. Tu reviens quand tu veux la saison prochaine. Hein, si tu es encore du côté de Nîmes, ça semble d'actualité. Donc, tu es le bienvenu dans les studios. Tu reviens quand tu veux. On se retrouve très certainement la semaine prochaine sur l'antenne de Rage, toujours de 13h à 14h sur lerage.fr. On nous écoute, mais aussi du côté de Nîmes sur le 102.5 et à Avignon sur le 90.3. On n'oublie pas d'aller écouter les podcasts, hein, puisque c'est déjà la 31e émission. Ils sont tous dispo sur iTunes, mais aussi sur. Ils sont dispo sur le rage.fr, exactement. On se quitte donc, les amis, et on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup, toi,
merci
Philou.
Merci à vous pour l'accueil. Ça m'a fait du bien. C'est vrai que dans ce moment difficile que je vis actuellement, ça m'a fait du bien un petit peu de parler d'autre chose et de voir autre chose. En tout cas, merci pour l'accueil et j'espère qu'année prochaine, on aura une aussi belle saison que nos crocos ont évidemment fait cette année. Avec vous supporters, gardez toute cette ferveur, cet engouement autour du club, de l'équipe et des joueurs. C'est ça qui booste les joueurs et qui les motive.
Merci beaucoup, merci toi Philou. Et puis, chers auditeurs, à la semaine prochaine donc pour un nouvel épisode du 11 de Nîmes. Ciao et allez les rouges, allez les crocos. Allez.